IDFM Radio, par nous, pour nous.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, DAB+, en web radio 98.fr et dans le monde entier grâce à notre appli bien évidemment. Aujourd'hui, vendredi 28 novembre, nous vous transmettons la diffusion de la rencontre qui a eu lieu hier au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains pour la deuxième édition des Assises de l'Innovation. Un rendez-vous majeur où se sont rencontrés chercheurs, entrepreneurs, élus, institutions, étudiants et acteurs économiques du territoire. Une journée pour imaginer ensemble les innovations de demain et je vous souhaite une belle écoute pour entendre ceux et celles qui ont contribué à cette belle dynamique.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Nous entamons nos interviews avec Philippe Seur, maire d'Enghien-les-Bains. Bonjour Philippe.
Bonjour à vous, bonjour aux auditrices et auditeurs.
Merci de venir au micro d'IDFM. Philippe, j'ai pu écouter votre mot de bienvenue et j'ai noté ce mot jubilation l'idée d'accueillir pour cette deuxième édition les Assises de l'Innovation.
Oui, vraiment, c'est sincère parce que ce sont aujourd'hui des relations saines qui deviennent presque naturelles entre les milieux de la recherche universitaire, pas nécessairement donc la recherche industrielle, parce que nous avons bien entendu depuis toujours les laboratoires spécialisés sur des grands projets, mais on a en Val d'Oise la chance d'avoir justement une belle université qui continue à se développer. Un véritable plateau sur Cergy-Pontoise de grandes écoles et d'universités. Il faut que nos auditeurs prennent conscience qu'il y a 35 000 étudiants, que nous serons vraisemblablement dans les 10 ans à venir 50 000, puisque on projette une faculté de médecine et de santé, sans doute. Ah, évidemment, ce n'est pas dans les 3 ans qui viendront, mais l'hôpital de Pontoise devrait devenir un CHU à moyen terme. Donc, ça va encore amener des étudiants. Mais il n'y a pas que l'université, il y a des grandes écoles. Les grandes écoles, comme l'ESSEC, qui est arrivé il y a 50 ans sur le plateau, chassé en quelque sorte de Paris, l'ESCOM, bien sûr, et puis d'autres écoles qui se sont installées, l'ENSEA, EBI, l'école de biologie industrielle. Et toutes ces écoles fonctionnent en harmonie, en coopération avec l'université, avec CI, université. C'est magnifique. Et la relation aux entreprises s'est établie également. Ce que j'ai dit en ouverture, c'est de l'expérience, étant moi-même universitaire, non pas dans des sciences exactes, mais dans le domaine du droit, bien sûr. Mais j'ai connu, moi, l'époque où la relation à l'entreprise privée était mal perçue, voire diabolique.
Bien sûr.
Voire diabolique. Le pacte avec le diable, c'est terminé. Et heureusement, parce que si on prend un exemple, il y a dans l'université des plateformes technologiques qui sont ouvertes aussi aux entreprises qui ont des secteurs de recherche, pas nécessairement des grands laboratoires. Tout le monde ne s'appelle pas Safran, bien sûr, mais il y a là un positif qui est extrêmement encourageant, surtout quand on voit que nos étudiants sont de plus en plus entrepreneurs.
Oui. Et l'exemple de CY Transfer est formidable pour ça.
Oui. Ils sont entrepreneurs, ils sont créateurs et ils n'hésitent pas à s'établir. Et c'est la start-up. Alors, toutes les start-up ne maturent pas, mais il y en a beaucoup qui émergent bien.
Alors, cette deuxième édition a plus de 200 inscriptions cette année. Un formidable élan qui donne une énergie toute particulière à cette deuxième édition. Et moi, je voudrais revenir sur le label Ville Créative UNESCO pour Enghien-les-Bains.
Oui.
Est-ce que, à votre avis, ça influence forcément votre vision de l'innovation ?
Oui, bien sûr. Alors, nous sommes Ville Créative UNESCO depuis 2013. On a été élus à l'époque. C'est toujours d'ailleurs une élection dans le réseau. Il y avait 60 villes à travers le monde qui avaient ce label. Maintenant, elles sont à près de 500, avec dans 7 catégories, les catégories du cinéma, catégorie musique, catégorie littérature, catégorie design, catégorie gastronomie, art, artisanat.
Oui, le choix est large.
Et évidemment, art numérique, le digital art. Et nous, à travers Enghien-les-Bains, ce petit Enghien-les-Bains de 12 000 habitants, s'est trouvé retenu, reconnu comme une ville créative à travers le Centre des Arts. Ses productions, parce que nous ne sommes pas seulement des diffuseurs, nous sommes aussi des producteurs. Et il y a là une reconnaissance qui nous a même porté à penser que cette petite ville d'Enghien et ce qu'on appelle aujourd'hui donc une sorte de point focal de leader, coordonnateur de l'ensemble à travers le monde des villes créatives art numérique. Donc comme Linz, comme Houston, York.
Parmi les plus grands.
Voilà, et c'est une vraie reconnaissance, bien entendu. Ça nous donne aussi de la légitimité. Et il est vrai que le Centre des Arts s'inscrit dans cette perspective de transfert, parce que les nouvelles technologies au service de la culture. C'est pour la musique, c'est l'image surtout. Nous, c'est l'image. Pensez qu'il y a maintenant une douzaine d'années, nous étions dans les pionniers en termes de 3D, que nous avons été parmi les premiers, avec nos amis japonais en coopération, à inventer une chanteuse hologramme. IA, on l'a appelé IA à l'époque, IA, et c'était extraordinaire. Elle a eu au Japon même un succès national.
Ah oui.
Et ici, elle a été reproduite, elle a transporté évidemment les auditeurs, spectateurs.
Merci infiniment, Philippe Sœur, pour tous ces témoignages. On pourrait parler très longtemps, mais
absolument.
Voilà, il y a beaucoup d'invités qui veulent passer à notre micro et on en est ravis.
Voilà, merci à la
radio. Merci, merci, à bientôt.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Dominique Roland.
Bonjour.
Merci de venir partager quelques minutes à notre micro d'IDFM Radio. Dominique, cette deuxième édition, on l'a dit, connaît un succès inédit avec plus de 200 inscriptions. Vous avez dû être particulièrement heureux quand le PUI vous a proposé de faire cette deuxième édition au Centre des Arts.
Alors cette deuxième édition, elle est née à l'issue de la première, c'est-à-dire le même jour.
Absolument,
nous en reparlons tout
presque
de suite,
un an jour pour jour.
Voilà, immédiatement, intuitivement, nous remettons le couvert l'an prochain. Et effectivement, c'est le cas. Alors, ça a un sens dans un lieu de création et d'art de pouvoir avoir ce type d'organisation, c'est-à-dire d'une journée consacrée à l'innovation, parce que la création artistique est au cœur de l'innovation. Pourquoi ? Parce que nous sommes un établissement d'intérêt national, mais sur les technologies précisément. Et évidemment, ce qui fait partie de notre écosystème, c'est ces relations, évidemment, ces collaborations, coopérations avec les universités, avec les entreprises.
Vous avez évoqué D'un monde à l'autre qui passe en ce moment, une très belle exposition. Et j'ai bien aimé votre formule en disant que vous décarboniez, puisque vous, plutôt que d'aller au Japon, c'est le Japon qui vient à nous.
Oui, en quelque sorte, puisque c'est dans le fond un voyage, c'est assez contemplatif d'ailleurs. C'est en partant de l'eau, parce que l'eau est un élément essentiel. On est sur un lac, on est presque sur le lac d'Enghien. mais nous partons d'une rive qui est à Kyoto, en l'occurrence le Temple d'Or. Nous traversons le château d'Osaka et nous arrivons à Auvers-sur-Oise, à l'église peinte par Van Gogh. Et puis nous arrivons sur les rives d'Enghien, avec au passage la maison de Jean-Jacques Rousseau.
Une exposition magnifique que j'ai eu l'occasion de voir, et vraiment j'encourage tous nos auditrices et auditeurs à venir la visiter. On a vu aussi ce robot dont vous avez dit qu'il on va essayer, le monde artificiel va essayer de recréer la nature. Mais est-ce que c'est pas un petit peu dangereux, ça?
Ce sont les artistes qui, devant l'ampleur, justement la disparition des espèces d'oiseaux en particulier, nous avons une compagnie qui se nomme Bokobok, et qui a travaillé sur la disparition de des abeilles, d'abord, et des oiseaux. Mais c'est une façon poétique de dire voilà comment va le monde, et finalement c'est un éclairage sur le monde que portent les artistes. Évidemment, et c'est une forme d'alarme aussi.
Bien sûr, c'est ça. Voilà, oui, parce que ça, on est inquiet de l'avenir qui se présente à nous. Dans les moments forts, il va y avoir aussi aujourd'hui Philippe Cohen-Solal et Benoît Carré. Je vous laisse nous en dire un mot.
Oui, Philippe Cohen-Solal, fondateur de Gotan Project, un groupe qui a pu faire au moins 500 concerts dans le monde, qui a été récompensé des Grammy en musique, qui a vraiment, je dirais pas révolutionné la musique, mais qui a ouvert une autre voie, c'est-à-dire de la musique électronique sur le tango, puisque Gotan, c'est une inversion finalement.
Ah oui.
Et aussi le revoir, puisqu'il a été il y a eu 3 concerts sur Enghien, ça a commencé en 2002, d'ailleurs avec la création du CDA. Et puis un retour de Philippe Cohen-Solal, avec cette fois-ci une inspiration d'un compositeur qu'il est, et musicien, sur un artiste plasticien de l'art brut, c'est donc Darger. Et ça a donné lieu à, donc en réalité virtuelle, à Insider, Outsider. Et ça a été présenté ici même, avec une coproduction, et ça a été présenté au Grand Palais dans les cadres de l'exposition de l'art brut. Alors on est très fiers de voir que Philippe Cohen-Solal, 25 ans après son premier concert au Centre des Arts, revient avec, cette fois-ci, en tant que compositeur, sur de la réalité virtuelle, sur un artiste plasticien Darger.
Et dans cet événement des Assises de l'innovation, donc c'est vraiment...
Qui est aujourd'hui, je dirais, une des personnalités artistiques qui nous montre en quoi l'innovation frappe à la porte de la création artistique. Alors évidemment, il y a aussi Benoît Carré. Benoît Carré, le nom est connu puisque sa sœur, il vient de réaliser toutes ses musiques de films, Isabelle Carré. Mais Benoît Carré, qui était en résidence au Centre des Arts, eh bien, est capable en chantant avec comme partenaire l'IA, eh bien de chanter en direct avec la voix d'Edith Piaf pour interpréter Stromae.
Donc un moment que nous attendons avec impatience. Merci infiniment Dominique Roland et très belle journée.
Merci.
Merci. Quelques minutes de pause musicale avec Diane Tell et la légende de Jimmy avant de continuer ces interviews.
Je l'aimerai à travers toi, je t'aimerai à travers lui, et pour lui tu me donneras le meilleur de ta vie. Je l'aimerai à travers toi, je t'aimerai. j'aimerais pour aujourd'hui. Je revivrai à travers toi la légende de Jimmy.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours au Centre des Arts pour cette deuxième édition des Assises de l'Innovation, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, bien évidemment. Bonjour Benjamin Schkroun, conseiller Bonjour. Régional Île-de-France, membre de la Commission du Développement Économique et de l'Innovation. Donc vous êtes vraiment sur votre terrain de jeu ici aux Assises de l'Innovation.
Ah bah je suis ravi d'être ici aux Assises de l'Innovation. C'est toujours exaltant de voir des chercheurs, des chefs d'entreprise, des start-upers discuter, forcer entre eux sur l'avenir du quotidien des Français, du quotidien des Valoisiens, mais aussi l'avenir de notre pays. C'est important qu'aujourd'hui, on a la chance dans le Val d'Oise d'avoir un écosystème universitaire, entrepreneurial, riche. C'est une chance d'avoir une université aussi dynamique que CY avec l'ESSEC. Et on est heureux à Enghien d'accueillir cette manifestation.
C'est une ville numérique.
Donc avec un centre des arts qui est très dynamique. Donc très heureux d'être ici aujourd'hui.
Cette année, ces assises rencontrent un succès remarquable avec plus de 200 inscriptions au niveau de participation, un taux inédit qui témoigne de l'intérêt croissant pour ces enjeux.
Ça montre l'envie, l'appétence de l'ensemble de l'écosystème, universitaire, entrepreneurial, des institutions, puisque même nous en tant que collectivité, que ce soit la ville d'Enghien-les-Bains ou la région, l'innovation, c'est aussi le quotidien, le quotidien avec les transports en commun,
complètement,
le pass Navigo, le fait que le pass Navigo soit sur le téléphone.
Améliorer le quotidien,
même en termes de sécurité. L'IA aujourd'hui, sur tout ce qui est vidéoprotection, a un vrai avenir. On l'a vu pendant les JO, ça a été un élément fort de sécurisation des JO. Et aussi culturel, parce qu'aujourd'hui, on voit... et je vous invite à venir voir l'exposition au Centre des Arts qui est une exposition immersive qui a été à l'Expo Universelle de Kyoto, qui montre comment l'innovation et le numérique sont au service de la culture.
Merci infiniment Benjamin, merci d'avoir pu témoigner à notre
avec
micro,
plaisir.
C'est pas toujours facile
non.
Avec vous, merci
courant
Benjamin
à bientôt.
À bientôt,
au revoir,
au revoir.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bonjour Grégoire Pénavert, adjoint à la culture à Enghien-les-Bains. Donc votre présence est ici à cette deuxième édition des Assises de l'Innovation prouve l'importance de cet événement à Enghien-les-Bains. Donc un mot sur ces assises.
Bonjour, écoutez, Enghien-les-Bains évidemment, surtout notre centre des arts reconnu mondialement puisqu'on est ville créative spécialisée dans l'art numérique et toujours reconnu. Nous sommes ravis effectivement d'avoir tous ces chercheurs, enseignants et entreprises pour travailler sur l'innovation et en particulier aussi sur l'intelligence artificielle.
Et vous, en tant qu'adjoint à la culture, qu'attendez-vous de cette édition en termes d'attractivité culturelle ?
Alors c'est une question qui pourrait apporter plusieurs réponses parce que déjà aujourd'hui travailler sur l'intelligence artificielle et toutes les entreprises ainsi que l'université peut apporter justement aussi de nouvelles données et de nouvelles possibilités en matière universitaire et puis de relations avec les entreprises, ça c'est très important. La deuxième chose aussi, l'innovation malheureusement... La France est quand même en retard par rapport à beaucoup de pays justement sur l'innovation et je suis content que justement on essaie de produire et de rattraper ce retard parce que j'ai l'occasion justement dans le cadre des villes créatives UNESCO de voyager dans le monde entier et quand vous allez chez les Chinois ou les Japonais ou Israël ou même les Américains, vous voyez que sur certains sujets nous sommes vraiment très en retard et je suis bien content qu'il y a de telles initiatives à Enghien.
Oui, parce qu'il a été cité que 40 villes ont été sélectionnées dans un projet innovant, dont Enghien-les-Bains. Et je trouve que c'est une belle vitrine quand même pour la ville.
Absolument, pour nous c'est quand même une très belle reconnaissance, vraiment on est vraiment à chaque fois ravis qu'une ville comme Enghien-les-Bains, vous l'avez sûrement déjà l'entendre, 12 000 habitants à peine, et on est à chaque fois cité, reconnu, que ce soit par le ministère de la Culture, que ce soit par la région Île-de-France, que ce soit aussi par l'État, puisque aussi nous avons des formations de haut niveau, de hauts fonctionnaires qui viennent à Enghien dans la matière culturelle et innovante. Donc oui, ça effectivement, ça fait plaisir qu'Enghien rayonne, et surtout notre centre des arts.
Oui, on peut même se dire que c'est la culture qui pourrait être le moteur de l'innovation.
Absolument, c'est une très bonne question. Mais un homme qui a tout compris, c'est notre maire Philippe Sueur. Car Philippe Sueur a déjà mis en place ça depuis déjà pour plus de 30 ans, hein, puisqu'il avait compris que l'art numérique, le numérique était vraiment l'avenir et la source vraiment du modernisme qu'on devait mettre en place à Enghien-les-Bains. Et ben, faut qu'on continue, et c'est pour ça que justement je suis ravi que ces assises des innovations sont encore présentes aujourd'hui.
Merci infiniment Grégoire Pénavert. J'espère vous accueillir maintenant dans nos studios la prochaine fois. Merci à vous.
Très bonne journée, au revoir.
À bientôt.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Et nous enchaînons à présent avec David Moreau, directeur général du domaine des Vanneaux à l'Isle-Adam. Bonjour David.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être venu à notre micro et ravi de vous retrouver à cette deuxième édition des Assises de l'Innovation au Centre des Arts d'Enghien.
Eh bien, pour moi c'est une première en tous les cas, parce que je n'étais pas à la première édition, mais de par les liens qui nous lient dans notre quotidien avec CY en général, c'était vraiment l'occasion d'être présent.
Que représente un tel événement pour un directeur général comme vous du groupe Accor?
Aujourd'hui, une nouvelle fois, c'est montrer la force du territoire. Hein, effectivement, le territoire du Val d'Oise, du 95, du Made in 95, où effectivement les choses bougent. Philippe Sueur en parlait lors de l'introduction tout à l'heure. On a des entreprises majeures dans la haute technologie, dans effectivement le 95, hein, des groupes comme Cerfranc. On a des groupes comme effectivement Hermès également. On a des acteurs majeurs de l'aéronautique. Hein, encore d'entreprises, par exemple sur Lizzy Aerospace, qui aujourd'hui est leader mondial sur son activité. Donc oui, aujourd'hui, c'est être sur le territoire, savoir ce qui s'y passe, hein, accompagner aussi les jeunes, parce que nous, c'est pour ça qu'on est là. Hein, on a des liens particuliers avec CY Entreprendre, notamment avec Sandrine Ledu. On les accompagne sur le trophée Pépite. Donc aujourd'hui, c'est la continuité, puisque là, on est à l'étape derrière. Hein,
oui,
c'est plus dans
absolument.
Le cursus étudiant. Ils ont franchi le pas, ils sont déjà dans la technologie. Donc c'est savoir ce que deviennent ces jeunes et ce qui se passe et comment ça se développe.
Avec peut-être même pour votre établissement, le domaine des Vanneaux, des perspectives futures, puisque vous avez rencontré Christelle Ventura.
Absolument.
Qui est le chercheur en sciences humaines et sociales. Donc, voilà. Pourquoi
pas. Parce qu'on pense avant tout à de la tech. Alors, nous, notre métier, c'est servir nos clients, leur offrir une expérience unique. Et à des moments, bien sûr, la tech arrive dans cette expérience, hein, que ce soit... lors de la pré-réservation, que ce soit dans la chambre également, il peut y avoir une expérience vraiment liée à la technologie, mais déjà dans le fonctionnement peut-être au quotidien de l'entreprise, sur notre façon de communiquer, sur notre façon de travailler ensemble, de préparer nos actions, nos réunions. Je suis sûr qu'il y a des choses inspirantes
à creuser. J'en suis sûr aussi. David, bientôt Noël, vous êtes à fond dans la préparation.
Voilà, à fond, dans les starting blocks. Voilà, le chef est derrière ses fourneaux, nous prépare une très belle carte festive, hein, qui va sortir le 5 décembre avec plein de surprises, et bien sûr un très joli réveillon pour le 31 avec une très belle offre, un menu en 7 plats avec un tarif plutôt accessible, 160 €.
Oui,
pour effectivement
correct.
C'est une aussi belle prestation, avec bien sûr on va y retrouver un turbo nacré, mais j'en dis pas plus. Vous pourrez découvrir tout ça sur nos réseaux sociaux et sur notre site, bien sûr.
Merci infiniment David, et puis belle continuation.
Merci, bonne journée Jacqueline.
Merci,
au revoir.
David, au revoir.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct qui, hier, était sur l'événement majeur de ce mois de novembre à Enghien-les-Bains, la deuxième édition des Assises de l'innovation à travers l'université de Cergy-Pontoise. J'accueille à présent à notre micro Bassam Aouen. Bonjour Bassam.
Bonjour.
Merci de venir nous présenter votre innovation parce que j'ai cru comprendre que vous êtes à l'origine d'une belle innovation. Je vous laisse nous en parler.
Ah ben, en fait, avec mon frère et un associé, on a développé... déjà, je fais de l'escalade.
Voilà, présentez-vous, Bassam. C'est peut-être plus...
Ça sera peut-être plus simple. Donc Bassam Aouem, donc je suis un ancien sportif de très haut niveau. J'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques. J'ai gagné 7 fois le championnat de France. J'ai gagné de multiples coupes du monde. Voilà, je suis
vous
bien
êtes
connu,
dans l'escalade, hein, c'est
dans,
ça
dans l'escalade oui. de compétition.
Oui.
Et donc j'ai arrêté ma carrière après les JO de Paris 2024. Et depuis, bon, un peu en avant quand même. Depuis 2023. Je développe avec mon frère et un associé un enrouleur automatique motorisé. C'est quoi ? C'est un système, c'est comme le vélo électrique, à assistance électrique, mais c'est pour l'escalade. Donc c'est un dispositif qui va permettre de faire grimper les personnes en surpoids, les personnes seniors, les personnes en situation de handicap, le tout venant, les personnes qui vont vouloir s'entraîner. Et en gros, on a développé cet outil pour faire en sorte que toutes les personnes qui rentrent dans une salle d'escalade puissent avoir une très belle expérience de cette activité.
Cette innovation est venue d'une demande. Vous avez fait une étude de marché ?
Non, pas du tout. On n'a pas fait d'étude de marché. Alors moi, ça fait 25 ans que je fais de l'escalade. Donc le marché, je le connais. Le marché de l'escalade, je le connais.
Oui.
Au niveau national comme au niveau international. À côté de ça, j'ai toujours travaillé. Hein. J'ai jamais fait que du sport. Alors là, j'ai toujours travaillé dans le développement. J'ai commencé en tant qu'éducateur classique. Oui. Donc bénévole, éducateur. Ensuite, j'ai dirigé des salles d'escalade. Jusqu'à avoir ma propre salle en 2021. Et quand avec mon frère, on a repris cette salle, on a mis toutes les nouvelles technologies qui existaient pour faire en sorte de rendre l'activité la plus accessible possible. Et la plus accessible pour nous, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si je prends un exemple et pour l'imager, quand on va faire du bowling, on se demande pas si on a la capacité de faire du bowling ou pas.
Bien sûr.
On y va 1 fois, 2 fois dans l'année, on lance la boule, elle passe, elle tape les quilles ou non. Et si elle tape les quilles, on est content. Si elle tape pas les quilles, on rigole.
Et on commence.
Et l'idée, c'est ça, c'est de rendre notre discipline aussi accessible qu'une séance de bowling. Alors ceux qui vont accrocher s'inscriront et en feront tous les jours ou en tout cas régulièrement. Et ceux qui voudront faire de l'escalade de manière très ponctuelle le pourront aussi. Et donc en installant toutes ces nouvelles technologies, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait un fossé entre l'initiation et le très haut niveau. Il n'y avait rien au milieu pour permettre justement que ce soit plus simple, qu'il y ait une transition entre l'initiation et potentiellement le haut niveau ou l'escalade performance. Et c'est pour ça qu'on est venu à penser à ce dispositif qui compense le poids pour alléger le poids du grimpeur.
Et où en êtes-vous de cette innovation ?
Eh ben là, on la commercialise dans 1 mois.
Très pile. Bien.
Voilà, donc là, on est sur la fin, on est sur la certification, les dernières étapes. Tout est quasiment fait, l'équipe est recrutée, on se lance.
Alors aujourd'hui, vous êtes présent à cette deuxième édition des Assises de l'innovation, là au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Le succès est au rendez-vous, hein, puisqu'il y a déjà plus de 200 personnes inscrites. Qu'espérez-vous de ces assises ?
Ah ben moi, personnellement, je j'attends rien du tout.
Rapport à votre innovation,
rapport à notre innovation, non, c'est plus de la communication. Moi, mon boulot en tant que PDG et en tant que représentant de notre solution, c'est de communiquer au plus grand nombre.
Mmh.
Parler de cette discipline qui est incroyable, qui permet de remettre les personnes qui sont très éloignées du sport et en fait d'une vie sociale, de les faire entrer dans une famille, parce que l'escalade,
avec une idée d'inclusion.
Exactement, l'idée c'est de faire entrer ces personnes-là dans des salles d'escalade, qu'elles rencontrent des gens bienveillants et qu'elles profitent d'une activité sportive, ludique et en même temps très bonne pour leur santé. Je viens juste pour communiquer en gros.
Le nom de votre entreprise ?
Alors c'est MBS Industries, c'est Michael Bassam Sébastien, pour faire ça.
Très bien. Eh bien, on va vous suivre à présent. Bassam Mawem. Bassam Mawem, pardon. Pour voir l'évolution de votre innovation.
Ah, merci.
Merci. Bonne journée.
De même.
Merci. Et si on faisait une pause musicale avec Jean-Jacques Goldman et Sirima en duo pour chanter Là-bas.
Là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. Faut du cœur, faut du courage. Tu as la force et la foi. L'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas.
IDFM Radio, 98 FM.
Nous sommes toujours au Centre des Arts pour cette deuxième édition des Assises de l'Innovation du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors, on pourrait penser qu'il n'y a que des hommes à cette deuxième édition des Assises de l'Innovation, mais pas du tout. Il y a aussi des femmes. Et nous accueillons à notre micro Angelina Bomarito. Bonjour Angelina.
Bonjour Jacqueline.
Donc vous Angelina, vous êtes chef d'entreprise, c'est ça?
Tout à fait.
De l'entreprise Execo. Je vous laisse vous présenter.
Exactement. Alors ça fait une dizaine d'années que j'entreprends dans l'éducation. Et ça fait un an effectivement que je suis à la tête du projet Execo. Le projet Execo, c'est l'intelligence artificielle appliquée au parcours personnalisé pour les élèves. Donc l'idée, c'est de venir comprendre l'élève, comprendre son fonctionnement, analyser ses lacunes à travers des interactions qu'il a avec la plateforme, permettre aux professeurs aussi de suivre les avancées de l'élève sur la plateforme et en fonction de son profil d'apprentissage, en fonction de ce qu'on va être capable de repérer, lui proposer des parcours qui sont adaptés, soit pour de la rémédiation, soit au contraire pour de l'approfondissement, en fonction de ce qu'il souhaite faire et de ses objectifs.
Vous êtes issu de CY?
Alors, j'ai fait mes études dans Paris, donc j'étais à l'ECE Paris en tant qu'ingénieur en système d'information. Mais effectivement, j'ai découvert le territoire du Val d'Oise il y a un peu plus d'un an, puisque je suis rentrée chez CY Entreprendre, donc qui est située à la Turbine.
Oui.
Et
Alexandrine Ledu.
Exactement. Et ses équipes. Donc j'ai vraiment été pris en charge. Ensuite, il y a eu les Tech Labs en février, notamment, donc chez CY Transfer. Donc on va dire que oui, j'ai fait la suite du parcours depuis un an pour Execo intégralement sur le territoire du Val d'Oise et chez CY.
Alors ces assises de l'innovation, deuxième édition, suscitent un véritable intérêt hein, puisqu'il y a plus de 200 inscriptions enregistrées. Vous en attendez quoi, vous, de ces assises? Rencontrer un maximum de personnes?
Tout à fait. C'est vrai qu'on est très nombreux. Donc là, j'ai eu l'occasion de participer à la table ronde qui était justement sur est-ce que les EdTech sont-elles deep, hein, savoir si on fait de la deep tech quand on fait de l'IA. Et on a déjà beaucoup de retours. Hein. J'ai eu des chercheurs qui sont intéressés, des personnes qui connaissent d'autres personnes. Donc on a vraiment tout un réseau qui se met en place grâce au pôle d'innovation, hein, pôle universitaire d'innovation, par rapport nous à nos recrutements et aussi au développement de la société, donc dans le secteur public.
Moi, je vous souhaite plein de belles choses, Angelina.
Merci beaucoup, de même. À bientôt. Au revoir.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Et tout de suite, j'accueille Frédéric Havard, directeur de projet innovant à Paris-Île-de-France pour Orange. Frédéric Havard, qui est le parrain de cette deuxième édition des Assises de l'innovation au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors Frédéric, j'ai pu écouter votre mot de bienvenue, votre mot d'introduction. Vous nous avez expliqué que Orange n'avait pas attendu ces assises de l'innovation pour être dans la tech. Expliquez-nous.
Alors oui, effectivement, je disais en introduction que on n'a pas attendu pour faire de l'open innovation chez Orange, conscient que le marché technologique sur lequel on évoluait allait très vite et que tout seul, on aurait entre guillemets peut-être pris du retard pour délivrer des services. Donc on s'est très vite entouré de structures agiles et innovantes, comme des start-up, comme des PME innovantes, comme des laboratoires académiques, pour travailler ensemble, pour collaborer, pour co-créer les produits et les services qu'on est en mesure de délivrer aux clients finaux, pour les particuliers ou pour les entreprises d'ailleurs.
C'est ça, votre entreprise a eu l'intuition et la conviction que le développement ne pouvait pas se faire tout seul.
Alors, on a des développements sur notre cœur de métier, infrastructure, réseau, qui sont faits en interne Orange. Mais derrière, dans les couches de services qu'on offre aux particuliers ou aux entreprises, il faut qu'on s'entoure de l'écosystème innovant, des startups, des PME innovantes et d'autres grands groupes aussi comme nous. On parlait il y a quelques années des véhicules connectés. Les véhicules connectés, c'est pas la... ça sort pas de la tête d'un Stellantis ou d'un Renault, ça sort de la tête d'un consortium multitude. Assez global pour pouvoir effectivement connecter et rendre autonome des tâches sur des véhicules de particuliers.
Aujourd'hui, vous êtes associé avec le PUI de Cergy Pontoise. Ça vient renforcer ce groupe dont vous avez parlé, Orange Venture.
Alors, Orange Venture, c'est notre fonds d'investissement. Donc, je dirais que c'est un petit peu le Graal dans le monde des startups. C'est-à-dire que c'est une structure qui va accompagner, guider et soutenir financièrement des startups qui, à nos yeux et aux yeux du marché, peuvent être ce qu'on appelle des licornes demain, oui, ou des très belles pépites. Donc Venture est vraiment la structure qui a les moyens d'investir dans des entreprises qui ont une valeur dans laquelle on se retrouve.
Vous allez repérer.
Voilà, qu'on repère, mais qui ont aussi, au-delà du produit et du service, des valeurs sur lesquelles nous, Orange, on se retrouve, des valeurs sociales, des valeurs sociétales, dans lesquelles... voilà, il y a une affinité qui se crée.
Alors moi, en tant que femme, j'ai noté votre mention spéciale femme. Donc je vous laisse nous expliquer.
Écoutez, alors c'est une belle histoire. C'est un constat qui a été fait en 2018 par la présidente d'Orange France de l'époque, qui s'appelait Fabienne Dulac, donc qui est une femme. Et Fabienne avait pointé du doigt que au moment où les entreprises ont besoin d'argent pour aller acquérir de la technologie, aller ouvrir un nouveau marché, les femmes étaient un petit peu lésées par rapport aux hommes, les femmes entrepreneuses. Et elle s'est dit, c'est pas possible. Les startups créées par des femmes méritent le même succès et le même accompagnement que celles créées par les hommes. Donc on va créer un programme pour soutenir ces femmes-là, apporter une crédibilité d'un groupe comme Orange, dans le bien fondé de l'entreprise qui est en train de se monter. Et du coup, on tord un petit peu le coup avec ce programme, je dirais, aux capacités que peuvent avoir les femmes à lever des fonds.
Eh bien, bravo et merci à vous de cette attention particulière aux femmes, mais pour tout le reste également. Merci Frédéric Havard.
Merci, très bonne journée.
Également.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
IDFM Radio, c'est toujours l'économie en direct et à notre micro à présent, Laureline Renaud, chargée de mission innovation pour la région Île-de-France. Bonjour Laureline.
Bonjour.
Et merci d'accepter de venir témoigner à notre micro. Alors, vous êtes présente à cette deuxième édition des Assises de l'innovation au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Votre présence témoigne de l'importance de cet événement. Quelle importance ces assises ont-elles pour la région Île-de-France?
Merci pour la question. Alors pour la région, c'est important de venir et d'être représenté sur cet événement. La démarche, l'initiative des pôles universitaires d'innovation, on la surveille de près. Donc la région est partenaire du PUI de CY. Donc pour nous, c'est important de nous mobiliser et d'accompagner la démarche. Et particulièrement cette année, notamment parce que on a un projet, en tout cas un appel à projet qui était ciblé sur les pôles universitaires d'innovation qui vient tout juste de clôturer il y a quelques semaines. Donc c'est l'occasion de pouvoir recroiser informellement avec tous les acteurs sur leur candidature et pour pouvoir en discuter.
Très bien. Un rendez-vous qui rassemble aujourd'hui plus de 200 inscrits, qui témoigne précisément de l'adhésion des acteurs du territoire.
Oui, c'est vraiment très, très plaisant à constater cette mobilisation qui, en fait, concrètement rassemble des personnes qui se parlent, mais avec un rendez-vous que tout le monde attend. Et pour nous, c'est l'occasion de nous recroiser, de discuter de dossiers, mais dans un cadre informel. Et j'ai particulièrement apprécié la table ronde que j'ai trouvée très, très enrichissante sur les EdTech.
Eh bien, merci beaucoup, Laureline Renaud, et puis bonne continuation dans votre mission.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour, Guillaume Berthelot, entrepreneur pour Deep Tech Founders. Guillaume, j'avais eu l'occasion de vous interviewer déjà l'année dernière à ce micro.
C'était déjà un plaisir.
Et cette année, pour la deuxième édition des Assises de l'innovation, nous avons une participation exceptionnelle avec plus de 200 personnes qui ont rejoint l'aventure pour cette édition. Donc, votre présence aujourd'hui prouve aussi que vous êtes très intéressé par ces Assises.
Oui, c'est toujours un moment important de réunir les différents acteurs de l'écosystème. C'est toujours important de pouvoir faire des liens entre les institutions qui vont décider des initiatives à prendre, mais aussi les gens qui sont plus sur le terrain comme moi ou comme les entrepreneurs qu'on peut voir sur scène ou dans la salle, et les soutiens aussi côté corporate, côté entreprise, parce que de toute façon, les startups et de toute façon, les startups que moi j'accompagne ont vocation à travailler avec d'autres entreprises, que ce soit en tant que client, mais aussi en tant que partenaire. Et réussir à réunir tous ces gens-là, c'est toujours
un vrai challenge.
C'est un challenge, mais quand ça fonctionne, c'est toujours des belles connexions qui permettent de faire avancer les projets, à la fois avancer les projets sur le terrain et aussi faire avancer la vision qu'on peut avoir quand on est institutionnel sur ce qui se passe en dehors de son institution.
Alors, merci pour cette précision, mais rappelez-nous bien ce que fait Deep Tech Founders.
Alors, Deep Tech Founders, c'est un programme qui a été créé en se rendant compte de la difficulté de faire la transition entre le laboratoire et une start-up. C'est-à-dire, comment est-ce que je passe d'un statut de chercheur à un statut de chef d'entreprise ? Nous, on a créé un programme de formation avec une vision qui est peut-être un peu paradoxale pour un programme de formation, mais moi, je ne crois pas au diplôme d'entrepreneur. D'accord. Pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres. C'est... Je pense que l'entrepreneuriat, c'est comme la recherche, quelque chose qui s'apprend par l'expérience. Il y a un socle commun, mais c'est quelque chose qui s'apprend par l'expérience. Et donc, nous, chez Deep Tech Founders, on essaye d'être des catalyseurs de cette expérience. En partageant notre expérience à nous, en partageant l'expérience d'entrepreneurs qui ont déjà passé quelques étapes, et aussi en accompagnant les chercheurs pour que eux se fassent leur propre expérience de façon la plus optimale possible.
Donc vous êtes en adéquation parfaite avec CY Transfer.
Donc on travaille avec...
C'est l'objet.
Exactement. On travaille avec tous les acteurs de l'écosystème, les différents PUI, les offices de transfert de technologie, que ce soit les offices locaux comme, enfin, ou universitaires comme CY Transfer, ou les SAT, par exemple, ou des choses plus nationales comme CNRS Innovation ou INSERM Transfer.
Alors moi, je vous rejoins complètement hein, sur cette idée de diplôme d'entrepreneur qui n'est pas, ce n'est pas la panacée. Olivier Romain nous disait que là où il y a vraiment un delta entre les entreprises et les chercheurs, c'est souvent le langage. Vous partagez cet avis ? Ils n'ont pas le même langage. Alors, il faut arriver à les faire se rencontrer.
Alors, je pense que, en fait, la question du langage, elle est, c'est plutôt un symptôme que quelque chose de fondamental. Parce que, finalement, la question du vocabulaire, ça s'apprend. C'est des choses qui viennent, et en 2-3 mois, on sait de quoi on parle, on sait... On sait parler le même langage qu'un corporate. La question, c'est est-ce qu'on veut le faire ?
Oui.
Est-ce qu'on veut le faire et est-ce qu'on se donne les moyens de le faire ? C'est-à-dire, est-ce que nous, en tant que chercheurs, on est capable de sortir de son laboratoire pour aller discuter avec des industriels qui ont des problèmes et qui les expriment d'une façon différente ? Est-ce qu'on est capable de sortir du laboratoire pour aller parler avec des investisseurs qui vont avoir une vision différente de ce que c'est qu'un projet, même un projet deep tech, même un projet... très très amont comme, ou fondamental comme un projet sur de l'ordinateur quantique par exemple, ben, on va avoir une vision différente de tous ces acteurs. Et le challenge, c'est pas tellement le vocabulaire, mais c'est la volonté d'obtenir ce vocabulaire qui vient naturellement quand on parle aux acteurs. Donc le vrai challenge, enfin un des challenges, c'est le fait d'accepter de sortir de son laboratoire et d'accepter de sortir de sa communauté, de sa zone de confort, pour aller se confronter. Alors c'est un peu péjoratif de dire se confronter à la vraie vie, mais en tout cas se confronter aux problématiques industrielles.
Et donc aujourd'hui, vous espérez rencontrer les uns et les autres ?
C'est ça, on espère rencontrer à la fois les acteurs du PUI, mais qu'on connaît déjà, et puis les gens comme le parrain de
Frédéric Avard.
Voilà, Frédéric Avard et le groupe Orange, les acteurs du territoire, pour comprendre aussi, nous, par exemple, moi, j'ai un entrepreneur qui me dit je travaille. Un exemple que j'ai eu sur de la télécom, du télécom par laser, à qui je le présente chez Orange pour que la communication puisse se faire et que les projets avancent plus vite. Donc pour moi, c'est surtout ça que je viens chercher.
Vous êtes un facilitateur de mise en relation, quelque part.
On essaye de pousser les projets le plus loin possible. Ouais. Et donc pour pousser les gens, il faut aussi leur donner les moyens d'avancer.
Complètement.
C'est un peu facile de se dire va parler à tes clients et d'attendre et de se dire pourquoi ça avance pas.
Est-ce que ça va arriver ? Oui.
Donc plus on peut nous connaître les gens, pouvoir faire des mises en relation, plus ça nous permet d'avoir des gens qui avancent vite et aussi plus c'est intéressant pour nous au jour le jour d'avoir des startups qui ont toujours des nouveaux problèmes parce qu'ils rencontrent des nouveaux clients.
Eh bien écoutez, je vous souhaite de rencontrer plein de personnes aujourd'hui, Guillaume Berthelot. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. On écoute Axel Boer et Cargo pour nous accompagner dans ces interviews.
L'enfer va commencer.
Capot de nuit,
guerre chaude et narguilé. IDFM Radio, 98 FM.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct qui, hier, était sur l'événement majeur de ce mois de novembre à Enghien-les-Bains, la deuxième édition des Assises de l'innovation à travers l'Université de Cergy-Pontoise. Bonjour Laetitia La Sagesse, un très joli nom, La Sagesse, tout un programme. Donc vous êtes présidente d'Humalis, H-U-M-A-L-I-S, qui travaille à la valorisation socio-économique de la recherche des SHS, sciences humaines et sociales. Donc un peu quelques explications sur Humalis.
Bonjour, merci beaucoup pour cette question. En fait, nous avons, mes associés et moi, œuvré chacun de notre côté dans des sociétés d'accélération du transfert de technologie pour défricher l'accompagnement de la valorisation des sciences humaines et sociales vers la société, les acteurs socio-économiques. Je dis défricher parce que les sciences humaines et sociales ont très longtemps été le parent pauvre de la valorisation et du transfert, comme on l'appelle, de technologie. Aussi, il a fallu inventer et écrire un modèle en tenant compte, bien évidemment, des systèmes de contraintes qu'impose le transfert, mais surtout des spécificités liées aux sciences humaines et sociales. Et quand on a chacun quitté nos SAT respectives, on s'est dit qu'il fallait encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir pour accompagner les travaux de recherche des chercheurs en sciences douces, comme on peut parfois les appeler. Et on a créé la société Humalis. Donc Humalis accompagne à la fois les équipes de valorisation dans leur stratégie de valorisation des sciences humaines et sociales, mais également les équipes de projet, les équipes de recherche, à la fois pour leur expliquer ce qu'est la valorisation des sciences humaines et sociales, comment on s'y prend, comment on parvient à rendre tangible quelque chose qui a priori ne l'est pas forcément.
Oui.
Et on agit au niveau du Humalis exactement au plus près du besoin, de manière très agile, en fonction de la maturité du projet, de la maturité aussi de l'équipe de recherche. Parce que tous les chercheurs n'ont pas la même appétence pour la valorisation et n'ont pas la même définition de la valorisation, mais tout est possible.
Tout est possible, c'est ce que nous avons nous-mêmes chez IDFM Radio constaté pour avoir interviewé plusieurs fois Christelle Ventura, dont on sent qu'elle est complètement investie dans cette recherche des sciences humaines et sociales. Un nouveau champ, en effet, alors que vous le dites très bien, c'était le parent pauvre pendant plusieurs années. Est-ce que vous constatez autour de vous cet engouement également vers,
Alors, il y a un engouement absolu. Alors, évidemment, le PUI CY Transfer en est vraiment un très, très bel exemple.
Un catalyseur, oui.
Pour porter aussi fort et aussi loin cette volonté d'accompagner la valorisation des SHS sous toutes les formes. Et dans la dynamique du PUI, on retrouve vraiment justement l'esprit à la fois pionnier, mais également totalement stratège. Aujourd'hui, on est dans des sables mouvants, tant au niveau de la transition écologique que la transition numérique, ou toutes les transformations sociétales que nous vivons. Et à ce titre, la recherche en sciences humaines et sociales a encore plus peut-être qu'auparavant un rôle à jouer pour nous aider à transformer cette société et le monde dans lequel nous vivons.
Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous citer de valorisation que Humalis a mis en exergue ?
Oui, bien sûr. Alors, pour un chercheur en géographie de l'Université d'Avignon, il s'est agi de l'accompagner dans son projet de création de start-up d'un système d'information géographique destiné à analyser un terrain, ou quel que soit le type de projet de construction, pour être capable de savoir, grâce à cette application numérique, où se situent les réseaux de transport, où se situe la vie donc familiale éventuelle, les écoles, les commerces, comment est relié le terrain au réseau d'électricité, d'eau, et de manière rapide pour qu'on ne fonctionne plus forcément quand on est constructeur immobilier ou particulier, aux stagiaires ou au courage pour consulter les différentes données publiques, mais qu'on puisse tout regrouper dans un agrégat, dans une appli qui agrège justement l'ensemble. Et ça a donné naissance à une start-up, Elka Spatialist, qui a permis justement de développer ce marché. Et en fait, aujourd'hui, alors Elka Spatialist a fait son chemin et ne vit plus aujourd'hui, mais par contre a donné naissance à de nombreux types d'applications de ce type qu'on trouve aujourd'hui exactement en open source.
Très bien, mais écoutez, un bel exemple et on vous souhaite d'en avoir encore de nombreux comme ça. Merci infiniment Laetitia, la sagesse.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
IDFM Radio, l'économie en direct, et nous reprenons ces interviews pour la deuxième édition des Assises de l'innovation qui se tiennent au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. J'accueille maintenant Christophe Deraille, professeur conseiller innovation pour France Université. Bonjour Christophe.
Bonjour madame.
Merci de... Il faut m'appeler Jacqueline.
Bonjour Jacqueline.
Donc merci d'être à notre micro. Alors Christophe Deraille, déjà je vous laisse vous présenter.
Bah, écoutez, très rapidement, vous avez dit l'essentiel. Je suis professeur à l'Université de Pau et des Pays de la Dour dans le Sud-Ouest. Et donc je suis ravi d'avoir accepté l'invitation d'Olivier Romain de participer à ces assises de l'innovation. L'université de Pau et des Pays de la Dour est une université comme celle de Cergy, qui est une université ICIT, un label national. ICIT, ça veut dire Initiative, Science, Innovation, Territoire, Économie. Et nous portons également un pôle universitaire d'innovation.
Un PUI, d'accord.
Voilà, le fameux PUI.
Oui. Donc vous faites partie des PUI dont a parlé Olivier Romain.
Exactement,
tout à l'heure.
On en fait partie. Et j'assure effectivement au sein de cette université le déploiement de ce PUI. Et vous avez parlé de ma fonction conseiller innovation à France Université. France Université, c'est l'association qui regroupe toutes les universités au niveau national. Et j'ai la chance d'assurer cette mission innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovation est une des missions des universités. Et en lien évidemment avec ce dont on parle aujourd'hui et les pôles universitaires d'innovation tout particulièrement.
Oui, et puis le souhait du président de la République d'avoir de mettre à l'honneur toute cette innovation.
Exactement, et notamment il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années la Startup Nation qui est sortie de sa bouche et qui a derrière été suivie par des faits et notamment des financements importants pour que cette mission innovation au sein des universités, pas seulement au sein des universités, mais là je vais plutôt parler des universités, que cette mission soit dynamisée. Et en particulier qu'on acculture plus nos étudiants, nos jeunes étudiants à l'esprit d'entreprendre pour effectivement que ce seront les entrepreneurs de
évidemment.
Demain, bien évidemment. Mais également les chercheurs et les enseignants-chercheurs avec en fait une idée très simple qui est que la recherche académique produit des résultats et que ces résultats, ce seront bien évidemment les innovations de notre futur. Et on sait qu'on en a beaucoup besoin, notamment pour faire ces fameuses transitions énergétiques, environnementales, sociétales dont on a besoin. Et s'assurer que cette recherche académique et ces résultats de recherche académique, eh bien, à un moment donné, soient transférés dans la vie de tous les jours et deviennent les innovations. Alors, on sait assez peu qu'aujourd'hui, on est entouré d'innovations qui viennent de la recherche académique.
Oui.
On pourrait parler des problématiques en santé où les médicaments sont la majorité du temps issus de recherche académique. Mais vous voyez, je prends mon téléphone dans ma main. Les téléphones, les smartphones sont bourrés d'innovations qui viennent effectivement de la recherche.
Oui,
entre autres, parce que parler aussi de... les batteries du futur, oui. Etc., etc.
J'ai appris à être attentive à ce genre de détails parce que nous avons un partenariat avec CY Transfer et donc je reçois régulièrement des chercheurs dans cette émission et voilà, je crois même que le radiocassette, un chercheur nous avait dit que le radiocassette, ça faisait partie de ces innovations.
Par exemple, et y en a tant d'autres.
Il y en a beaucoup.
Juste un petit mot sur les étudiants. En fait, l'acculturation à l'entrepreneuriat est née il y a une dizaine d'années avec un programme qui s'appelle le programme Pépite au niveau national.
Ah oui, Ce sont des pôles qui existent toujours d'ailleurs.
Tout à fait, ça existe. Ça permet aux universités de délivrer le statut national d'étudiant entrepreneur. Et les universités au niveau national déploient aujourd'hui l'accompagnement auprès de ces jeunes étudiants qui ont des idées et on les accompagne pour les amener petit à petit vers la création d'une start-up. Alors des fois ça n'aboutit pas, mais ce que l'on sait c'est que l'étudiant a acquéri justement au cours de cet accompagnement des compétences qui sont des compétences transversales qu'on n'apprend pas forcément à l'université et à l'école et qui, même s'il ne devient pas patron d'une start-up, lui serviront toute la vie.
Il apprend sur le terrain.
Tout à fait. Et ça, on y tient beaucoup à ces objets-là.
Votre PUI a une spécificité particulière ?
Oui, il a une spécificité. Il se concentre autour des transitions énergétiques et environnementales. Et tout ce qui concerne les attitudes sociétales autour de ces transitions. Demain, passer aux énergies vertes, moins polluer, ce sont des choses, des sujets qui sont importants à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour depuis sa naissance. C'est une jeune université, elle a été créée en 1970. Et donc, du coup, dans le pôle universitaire d'innovation, on s'attache à porter des innovations plutôt dans ces domaines, même si on ne laisse jamais de côté un projet d'innovation qui serait pour d'autres sujets.
Oui, bien sûr.
T'es très intéressé par la table ronde sur l'humain augmenté.
Oui.
Parce que par exemple, comme dans toutes les universités, on a des gens qui font des recherches dans le domaine du sport. On a une filière STAPS. Et ça, c'est pas forcément de l'énergie. Alors, c'est de l'énergie humaine, mais c'est pas de l'environnement. Par contre, il y a des innovations extraordinaires dans ce domaine, et bien évidemment, on ne les laissera pas de côté si on les détecte.
Mais oui, bien sûr, ce serait dommage, en effet. Merci infiniment, Christophe Deraille, d'avoir répondu aussi clairement à notre invitation.
Merci à vous de cette invitation et de ce dialogue.
Une très bonne continuation pour ces assises.
Merci beaucoup à vous aussi.
Merci.
Au revoir.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
IDFM Radio, l'économie en direct. J'ai le grand plaisir d'accueillir à présent Olivier Romain. Bonjour Olivier.
Bonjour Jacqueline.
Olivier Romain, vice-président de CY Transfer et puis organisateur de ces assises, de cette deuxième édition des assises de l'innovation. Olivier, j'ai entendu votre introduction ce matin. Vous vous disiez ému et très heureux du succès de cette deuxième édition.
Complètement. C'est-à-dire que lorsqu'on a lancé le PUI, on s'était dit qu'il nous fallait quand même un événement annuel, un événement un peu majeur qui donne un peu une rétrospective des actions qu'on mène sur notre territoire à travers le PUI. Et en même temps, qui puisse aussi donner la parole, la voix des acteurs du territoire pour montrer en fait ce que le PUI peuvent leur apporter. Et on voit en fait que ces assises qui ont été lancées l'année dernière ont déjà eu un véritable succès puisqu'on avait 120 personnes qui étaient inscrites, il y en a 150 qui sont venues. Et cette année, on est à peu près à 200 personnes inscrites et peut-être qu'au pic de la journée, on va dépasser les 200 personnes.
Absolument, oui, elle s'annonce comme l'une des plus suivies, en tout cas, une vraie exponentialité, on peut dire, par rapport à l'année dernière. Olivier Romain, donc ces assises, vous pensez que c'est un vrai catalyseur, un événement unique ?
Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, à travers ce PUI, on voit dans ces journées qu'on arrive à drainer en fait différents acteurs qu'on ne voit pas par ailleurs, en fait, au niveau de nos réunions d'avancement du PUI. Donc on voit qu'effectivement, ça permet de catalyser et en même temps d'ouvrir en fait à des réflexions sur des champs disciplinaires comme aujourd'hui. On a fait ces deuxièmes assises qui sont sur les sciences humaines et sociales avec des témoignages, des acteurs, des personnalités qui viennent nous donner un regard et qui nous font avancer en fait dans nos réflexions sur le PUI.
Vous avez annoncé aussi que d'autres, ça vous permettait d'avoir des regards croisés avec d'autres PUI. Nous avons interviewé Christophe Doraille qui nous a parlé en effet de la spécificité de son PUI, donc des vraies connexions.
Alors en fait chaque PUI quelque part en fait est développé sur un écosystème qui est lié à un territoire. Donc ce qui est très intéressant c'est que cet après-midi, juste après cette interview, on va pouvoir justement présenter des initiatives sur 6 territoires différents et montrer comment on arrive à répondre aux objectifs gouvernementaux des PUI. Donc c'est intéressant de voir quelles sont les initiatives qui sont menées avec les spécificités industrielles de chaque territoire. Et en même temps, voir si on ne peut pas généraliser les approches d'un PUI à l'autre.
Votre renforcement avec la participation d'Orange aussi, une étape très importante.
Bah pour nous, oui, c'est vraiment un signe, un gage en fait, qu'un grand groupe comme Orange s'engage à nos côtés et parraine cet événement. Oui, c'est extrêmement important. Orange l'a exprimé ce matin dans son discours, c'est quand même un grand groupe qui supporte en fait tout ce qui est entrepreneuriat. Ils ont Orange Venture avec énormément de budget pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat. Oui, c'est extrêmement important pour nous. Justement, eux nous apportent en fait un regard industriel pour nous plus académique qu'on n'a pas.
Et un mot sur ce lieu du Centre des Arts, complètement dédié à ces assises.
Ah bah c'est un lieu magique, c'est-à-dire que c'est presque inespéré pour nous, c'est-à-dire on a un lieu qui est dédié à l'industrie culturelle et créative, en même temps c'est un lieu où il y a un incubateur vis-à-vis en fait de cette industrie. Donc c'était naturel en fait de faire ici ces assises, on les avait fait l'année dernière, on a eu un super retour. Là, cette année, c'est magique. On a des équipes au top, on a un environnement au top. Les gens qui ne connaissent pas Enghien viennent au Centre des Arts et ça va leur rester, en fait.
Donc, vous êtes satisfait de ces assises ?
Pour l'instant,
pour le moment,
carton
tout
plein.
Se passe bien.
Pas de fausses notes, carton plein. On croise les doigts pour cet après-midi.
Bravo et félicitations, Olivier Romain. À très bientôt.
Merci, Jacqueline.
Merci.
À bientôt.
À bientôt. Bon.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Bonjour Lucie Fleuret.
Bonjour.
Vous êtes le coup de cœur du jury Trophée Innovation Startez. Donc je vous laisse vous parler nous parler de votre parcours, Lucie.
Moi, je suis étudiante à Cergy. J'ai intégré, on va dire, le cursus il y a 5 ans, qui s'appelle CY Tech, en commençant par une prépa intégrée sur le sujet de donc l'ingénierie biomédicale, donc BTC, donc biotechnologie et chimie pour la santé, que j'ai fini du coup l'année dernière. Et tout ça pour continuer dans le domaine des sciences appliquées à la santé et aux dispositifs médicaux.
Mais alors, ce coup de cœur du jury, il vous est décerné par rapport à quoi, précisément ?
En fait, l'année dernière, à la fin de mon stage de fin d'études, le directeur du laboratoire m'a proposé de participer à Startez, qui était, on va dire... des conférences sur la transition entre la recherche et l'entreprise. Donc comment transférer les technologies depuis par exemple un laboratoire jusqu'à l'industrialisation, l'entreprise, comment pitcher son projet, le développer. Et donc j'ai participé à ces deux jours sur ce sujet et à la fin on a eu une présentation sur le développement d'un projet innovant avec mon équipe et on a pitché notre projet et notre solution.
Et qui a donc eu le coup de cœur.
Le coup de cœur, c'est bien ça.
Et alors, qu'aimeriez-vous que cette journée vous permette de concrétiser ces fameuses assises aujourd'hui d'innovation ?
Aujourd'hui, en fait, je viens surtout pour assister aux différentes conférences, avoir une vision plus générale sur la recherche, sur le transfert, sur la pluridisciplinarité, en fait, puisque moi, je suis quand même très axée sciences, développement de matériaux, mais de par mon sujet de thèse, par exemple, qui est sur la reconstruction au niveau du visage, on passe aussi bien de la modélisation 3D, de l'intelligence artificielle pour l'automatisation, mais aussi sur le développement de matériaux, jusqu'à en fait l'aspect psychosocial, en fait, pour l'encadrement du patient, l'aide aussi à la chirurgie. Pour tout ce que.
Oui, parce qu'il y a tout un effet psychologique quand on change comme ça.
C'est ça, mais que ce soit au niveau du patient ou au niveau du chirurgien, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines chirurgies, comme la chirurgie au niveau du nez, qui est une chirurgie très complexe, et peu de chirurgiens, on va dire, osent se lancer dans ce type de chirurgie, puisque c'est une chirurgie très lourde, qui n'est pas, on va dire, beaucoup aidée. Et sur un temps long, par exemple, pour reconstruire un nez, c'est à peu près 2 ans d'opération, 4 temps opératoires. Et du coup, c'est très dur pour le patient, mais c'est aussi très dur psychologiquement pour le chirurgien qui remet en question son travail à chaque temps opératoire. Et donc c'est très, très dur à supporter, en fait. Et donc, voir au niveau psychologique.
D'où l'importance, dans le cas présent, des sciences humaines et sociales pour accompagner.
C'est ça. Oui. Et puis, du coup, aussi, là, on a vu certaines conférences sur comment on voit l'homme, le surhomme, etc. Et quand on répare l'humain, de par la chirurgie ou le développement de biomatériaux, c'est exactement... c'est souvent ce sujet-là, c'est comment la personne se voit une fois réparée. Oui. Est-ce qu'elle accepte son nouveau visage ou est-ce qu'elle arrive à retrouver son nouveau visage ? Donc c'est vraiment tout des thématiques qui touchent en fait à mon sujet de thèse.
Le propre de l'humain et même le profond de l'humain.
C'est ça.
C'est passionnant ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous envisagez vous-même d'être entrepreneur ?
Moi, c'est vraiment une question que je me suis posée ces dernières années, justement à propos de mon sujet d'aide à la reconstruction. Et je pense que c'est vraiment, on va dire, une voie qui pourrait me plaire.
Oui.
De m'investir à fond dans un sujet, le développer un maximum, de toucher en fait à tout le spectre.
Et tous les aspects de l'entreprise et de la recherche en même
temps.
C'est ça. Ouais. Merci infiniment, Lucie.
Merci à vous
pour ce prix de coup de cœur du jury.
Merci beaucoup.
Et puis belle continuation.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous sommes toujours au Centre des Arts pour cette deuxième édition des Assises de l'Innovation, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, bien évidemment. Bonjour Benoît Carré.
Bonjour.
Merci de participer à cette interview. Donc Benoît Carré, vous êtes chanteur, compositeur, musicien et acteur français. Et surtout, je crois, à l'origine d'un nouveau projet de musique géré par l'intelligence artificielle, c'est bien ça ?
Oui, pas vraiment géré par l'IA, mais j'utilise l'IA pour créer un projet qui s'appelle Chanson Impossible.
Oui.
Chanson Impossible, en fait, c'est des hommages inversés. C'est-à-dire que généralement, les artistes d'aujourd'hui rendent hommage aux artistes d'hier à travers des reprises qu'ils font de leur répertoire. Comme, je sais pas, par exemple, Pomme qui a repris une chanson de Barbara parce qu'elle est très inspirée par cette chanteuse. Et moi, j'ai imaginé que Barbara chantait une chanson de Pomme. Hein, voilà. Ou j'ai imaginé que Joe Dassin chantait une chanson de Stromae. parce que voilà, cette chanson Papa où t'es, c'est un peu la suite du chemin de papa.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est une belle, image.
Voilà, et c'est un peu ce qui me, c'est des, je crée des ponts en fait imaginaires à travers des affinités artistiques.
Et que cette envie de créer ça, vous est venue comment ?
En fait, ça m'est venu avec le clonage vocal, puisque le clonage vocal permet aujourd'hui de transformer sa voix, plutôt la conversion vocale, puisqu'il s'agit là plutôt de chanter et de faire remplacer son timbre par l'IA avec des modèles de voix que je crée. Par exemple, je crée un modèle de voix de Dalida, et quand je chante ou quand je parle, je peux avec l'IA retirer le timbre de ma voix pour le remplacer par celui de Dalida.
Dominique Roland a beaucoup parlé de vous ce matin dans son introduction, en nous prévenant que c'était assez extraordinaire ce que vous faisiez. Donc moi j'ai hâte d'écouter. Ces créations vous amènent aujourd'hui à la deuxième édition des Assises de l'Innovation. Vous pensiez un jour participer à ce genre d'événement ?
Bah non, c'est la première fois que je participe à cet événement, mais en même temps c'est pas la première fois que je participe à des événements qui sont initiés par Dominique Roland. Qui m'a en fait appelé à travers le laboratoire Sony CSL en 2017 pour les villes créatives. Et ce projet pour lequel j'ai créé avec des artistes un morceau qui serait une espèce de qui engloberait plein de villes, plein de styles et de musique des villes qui sont dans cet événement Ville Créative 2017. Et puis après j'ai été invité souvent parce que aussi Dominique Roland me soutient.
C'est ça,
il suit mon travail. Et donc il m'invite régulièrement dans les événements dont il est l'initiateur ou auxquels il participe très activement, quoi.
Et pour écouter donc vos œuvres, que faut-il faire ?
Il faut, c'est-à-dire que sous le nom de Skygge, qui veut dire S-K-Y-G-G-E, qui veut dire ombre en danois.
Oui.
Sous ce nom-là, en fait, il existe des chansons, des albums, des morceaux qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Et par ailleurs, sur le projet Chanson Impossible, c'est un projet de live. Et donc là, ce sera plutôt à partir de 2026, il y aura quelques dates dans des différents lieux qui sont pas encore tout à fait défini, mais il y aura des concerts.
Très bien, merci infiniment.
Merci. Puis
on a hâte. Moi j'ai hâte d'écouter ça. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
IDFM Radio 98 FM.
Nous accueillons à présent la cinquième femme à ces Assises de l'Innovation. Bonjour Solveig Serre.
Bonjour.
Alors Solveig, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Parlez-nous un petit peu de votre parcours.
Alors mon parcours, c'est une grande question. Mon parcours commence dans une grande école qui s'appelle l'École nationale des chartes, qui forme au métier de la conservation et du patrimoine, des bibliothèques. Et moi j'ai fait ma thèse sur l'Académie royale de musique, donc l'Opéra de Paris, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et pour tout un tas de raisons, mais il y a un vrai fil conducteur, depuis 15 ans je suis spécialiste des contre-cultures musicales en France, et en particulier de l'histoire de la scène punk.
Oui.
Depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Et pourquoi ce choix ?
À cause de l'archive, parce qu'en fait j'ai commencé à travailler dans un squat qui s'appelait la miroiterie. J'ai fait un travail d'archive parce que le squat allait disparaître. Mmh. Et de fil en aiguille aussi, grâce aux rencontres, j'ai notamment rencontré Luc Reben, qui est professeur à l'université de Bordeaux et qui était le premier guitariste de Noir Désir. On a lancé un projet de plus grande ampleur sur ces contre-cultures, le but étant d'écrire une histoire de la France contemporaine vue depuis ses marges.
Et donc aujourd'hui, vous êtes...
Je suis là parce que depuis 3 ans, je co-dirige avec un directeur de recherche en informatique qui s'appelle David Coeur-Joly, un grand programme national de recherche consacré aux industries culturelles et créatives qui s'appelle ICAR avec 2 C, dont la mission, vu que c'est en fait une mission que le secrétariat général pour l'investissement nous a fixée, enfin a fixée au CNRS, c'est de mettre la recherche au service des industries culturelles et créatives pour les accélérer dans le jargon de l'État, mais en fait pour les accompagner dans tous leurs grands enjeux de demain, donc numérique, économique, écologique, social, de transition, etc. Voilà.
Pour vous, être aujourd'hui à ces Assises de l'Innovation au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains,
Qu'est-ce que ça représente ?
Alors c'est extrêmement important parce que en réalité on est des mondes qui se fréquentent très peu. Alors mes communautés à moi, sciences humaines et sociales et sciences informatiques parlent très peu pour des questions de plutôt légitimes, hein, de langage en fait scientifique qui vient. On a du mal à comprendre ce que font nos collègues et aussi on a du mal à sortir de l'entre-soi. Et l'enjeu des journées comme celle-ci où il y a des professionnels, où on voit des acteurs culturels et créatifs, c'est aussi d'arriver à nouer des liens et à faire passer le message que la recherche peut être utile, parce que du côté des professionnels, souvent, ils ne voient pas trop l'intérêt d'un chercheur, ils pensent qu'on est beaucoup perché, surtout en sciences humaines et sociales. Et donc l'idée, c'est de leur expliquer que pas du tout, et d'autant que dans mon cas, on est vraiment à leur service, donc au contraire, de leur dire, si vous avez une question de recherche, on peut la travailler.
C'est ça, vous êtes vraiment prête à coopérer
avec... De toute façon, c'est la mission que nous a confiée l'État.
Oui. Et vous avez l'air passionné par ce que vous faites.
Oui.
C'est le cas ?
Oui. Bah, en fait, c'est des métiers où... Enfin, moi, c'est même pas un métier, c'est quelque chose.
Il y a pas de. C'est une vraie passion.
Ouais, c'est une vraie
passion. Vous n'avez pas l'impression de travailler.
Non, j'ai pas l'impression de travailler. À part l'administratif, qui est très compliqué, etc., qui mange beaucoup de temps. Il y a aucune simplification administrative, mais le côté humain, le côté recherche, oui, c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire ce métier.
Et que pensez-vous que cette journée puisse vous apporter ?
Alors des contacts de manière très voilà, aussi une ouverture, parce que quand on est en sciences humaines et sociales, le spectre est assez petit, hein, de ce qu'on arrive à connaître, donc plutôt côté professionnel, ça me paraît intéressant. Et puis évidemment le lien, bah il y avait l'Université de Lille, Cergy, enfin aussi le lien avec les collègues,
parce que alors
quand je dis que personne se parle, les collègues même dans un labo, dans une équipe, on sait à peine qui sont nos voisins.
Ah oui.
Ouais, on travaille très en silo. Et l'idée, justement, que je trouve excellente ici, c'est d'arriver à casser un peu le silo pour faire en sorte qu'on coopère tous, en fait, au niveau national.
Nous avons l'habitude de recevoir Olivier Romain, hein, puisque nous sommes partenaires avec le CY Transfer. Et c'est vrai qu'il insiste sur ce delta qu'il y a entre les langages. Alors, lui, il parlait plutôt des langages de chercheurs et puis d'industriels. Mais vous dites que même entre vous,
Que la vraie interdisciplinarité telle qu'elle est prônée, elle est très très dure à mettre en œuvre, parce que ne serait-ce que je sais pas un théorème mathématique, moi je peux pas le lire en fait. Donc il y a beaucoup de travail de médiation, alors que bon, ce qu'on écrit globalement en SHS, si on jargonne pas trop, c'est compréhensible par tout le monde. Ça dépend du niveau, hein, mais je veux dire bon, un mot c'est un mot en fait. Un langage, un théorème, même le fait les lettres grecques, des choses toutes bêtes comme ça. Si on n'est pas le langage des médecins, on peut en parler. Hein.
Oui,
quand on dit qu'on a de la fièvre,
vous
on est pyrétique.
En fait.
Donc voilà, mais je pense c'est aussi un instrument de pouvoir, hein, le langage. Donc l'idée, non. Et puis les pros, eux, ils utilisent plutôt des langages avec plein de mots anglais, blablabla. Donc non, l'idée, c'est qu'en fait, globalement, d'où l'intérêt aussi des temps informels. Nous, on est très attachés à ça dans ICAR, tout ce qui est les temps de rencontre, les temps de repas, pour arriver justement à se mettre à niveau. Ouais. Parce que souvent, on essaie d'impressionner quand on est en situation de parole. Quand on est devant un verre de vin, on est moins en situation de parole.
Désinhibé.
Exactement.
Merci infiniment Solveig pour votre témoignage et puis bravo pour ce que vous faites.
Merci
et puis belle table ronde alors.
Non, va falloir aller parler. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Bonjour Maïeva Noufeman, merci d'être à notre micro.
Merci à vous de m'accueillir sur votre plateau.
Alors Maïeva, vous êtes prix de l'innovation Startez. Mais je vous laisse vous présenter, Maïeva.
Ok, je suis Maïeva Noufeman. Actuellement, je fais une thèse en génie civil. Je suis doctorante. J'ai commencé ma troisième année de thèse au laboratoire matériaux et mécanique de génie civil basé à Neuville Université. Oui.
Donc, vous faites partie du PUI ?
Oui, du CY Transfer.
Très bien. Matériaux, génie civil. Vous êtes une femme, on est un peu surpris par cette spécialité.
En plus d'être une femme, je fais un peu moins de 1m50. Donc, mon entourage, généralement, quand je dis je fais génie civil, c'est le choc, c'est la surprise. Je suis un peu habituée à ça. Donc, c'est surprenant, mais avec le temps, on s'habitue.
Oui.
Ouais, avec le temps, on s'habitue.
Mais pourquoi ce choix ?
Personnellement, je pense que c'est dans les gènes. Hein, parce que. En passant le bac, pour une petite histoire, en passant mon baccalauréat, je ne voulais pas forcément faire le génie civil. Mais dès ma deuxième année, j'ai eu une attrayance vers le métier. Et je ne sais pas pourquoi, c'est juste
voilà,
comme ça. Love at first sight.
Ouais,
je dirais,
ouais. Nous, on est ravis, hein, au contraire. Mais voilà, je souligne malgré tout.
Merci.
Et puis donc pour votre projet de Startese, vous avez été mise en duo avec une chimiste, c'est ça? Et donc ça aboutit à quel projet?
Ok, pendant 2 jours, déjà je remercie l'initiative Startese et le Puy CY Paris Crochet pour l'opportunité. Durant les 2 jours du concours, on avait des formations, on avait des ateliers sur c'est quoi l'innovation, sur c'est quoi le brevetage, c'est quoi commencer une start-up, comment utiliser ce qu'on a appris en thèse, nos avantages. Se dire qu'on ne part pas de rien du coup, parce que des fois en thèse, on se voit un peu académique, oui, entre labos, rédaction, réunion académique, présentation, colloque international, et on se dit que bah on est dans ce mur-là académique, mais on ne se voit pas opérer ailleurs. Donc, c'était le but de nous dire, on ne part pas de rien. On a des compétences qu'on peut utiliser pour se vendre, pour vendre des projets. Donc, l'idée, le jeu, c'était d'imaginer un projet fictif qui n'existe pas et ensuite une entreprise, une start-up fictive qui va proposer une solution particulière. Donc, dans ce cas, j'étais mise avec une chimiste et une développeuse de start-up. Et pour le coup, j'étais la seule doctorante du groupe. Et pareil pour les autres groupes, il y avait un doctorant et d'autres compétences diverses, d'essayer avec ces différentes compétences de trouver un projet ou un produit ou une solution innovante qu'on peut vendre et qui peut vendre. Et ensuite, la pitcher en face des experts. Le pitch, c'était pas l'étape la plus
c'était
facile.
Pas prévu.
Ouais, c'était pas l'étape la plus aisée en tout cas, parce que c'était pas un pitch juste
avec. Et pourtant,
avec...
vous connaissez parfaitement votre sujet.
Oui, et c'est pas un pitch devant les encadrants pour le coup. C'est pas un pitch devant les camarades. C'est même pas une soutenance. C'est un pitch devant un investisseur, par exemple, qui te pose des questions. Ok, ton produit, tu comptes le vendre à combien? C'était vraiment du concret.
Vous y aviez réfléchi avant?
Ouais, on y a réfléchi pendant les 2 jours vite fait et on a pu proposer quelques solutions et ils en ont été convaincus. Et déjà, j'aurais tellement voulu avoir enregistré les présentations des autres parce que j'étais choquée d'avoir que mon groupe et moi on est convaincus, le jury choqué et heureuse quand même parce que les projets des autres étaient
costauds. Vous étiez surprise, pas choquée.
J'étais agréablement surprise merci.
Écoutez, bravo. Et donc aujourd'hui vous êtes présente à cette 2e édition des Assises de l'innovation, donc qu'est-ce que ça représente pour vous?
La première édition, j'étais pas là parce que j'avais pas l'information déjà. C'est vraiment wow dans le sens où, dans mon labo, j'ai pas l'impression tous les jours d'innover.
Oui, je comprends.
Ouais, j'ai plus l'impression de faire des choses qui marchent souvent très bien, qui marchent souvent pas, mais concrètement, directement, j'arrive pas à transposer ça dans le sens de l'innovation. Et se dire que bon, je peux être invité aux Assises de l'innovation avec des personnes, des grands décideurs, des personnes qui ont fait confiance au Puy, c'est quand même pour moi challengeant, surtout aussi. Challengeant,
c'est une reconnaissance.
Ouais. Oui, merci.
Merci infiniment, Maïeva, et puis plein de bonnes choses pour la suite.
Merci.
On va vous suivre aussi désormais.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
IDFM Radio, par nous. Pour nous.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct qui aujourd'hui a retransmis la 2e édition des Assises de l'innovation qui se sont tenues au Centre des Arts à Enghien-les-Bains. Des assises qui témoignent du dynamisme et de la créativité de notre territoire du Val d'Oise. Merci à l'ensemble des intervenants pour leurs interventions riches et inspirantes. Merci au public au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains pour leur accueil. Merci Francky de m'avoir assisté pour la technique. Je vous dis à mardi pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée et bon week-end.